Alors bonjour à toutes et tous, avec un petit peu de retard. Nous commençons cette première rencontre, dire et écrire le travail, récit de travail, après la très très belle lecture qui nous a permis de plonger dans les textes des auteurs invités. Ben, on va plonger un petit peu dans les coulisses et les raisons qui les ont amenés respectivement à écrire et produire ces textes et quel est le sens qui se cache derrière ces démarches. Pour ce faire, nous allons échanger avec Damien Lelièvre, Pierre Madiot, Jenny de l'École et Philippe Durand, dans l'ordre de gauche à droite. C'est une rencontre qui va durer à peu près une heure et demie et il y a un temps là-dedans, un temps de questions, si jamais vous avez des questions, qui est évidemment prévu pour que vous puissiez échanger, prolonger l'échange par vous-même. Pour commencer, ce terme de travail, est-ce qu'il désigne la même réalité pour tous et toutes? Si vous voulez commencer, Damien, par exemple.
Oula, je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour répondre à cette question plus technique. Parce que moi, je suis travailleur avant tout, donc je n'ai peut-être pas le recul nécessaire. Mais clairement, aujourd'hui, ouais, le travail est vécu différemment par chaque personne. Après, moi, j'ai décrit le travail dans force de vente, d'un travail de ce qui est appelé cadre. Mais au fond, je pense qu'on y retrouve, et j'étais aussi ouvrier avant. Et en fait, je trouve qu'on retrouve les mêmes souffrances, enfin, des choses assez similaires, alors qu'on veut éclater le travail de cadre et le travail d'ouvrier. Voilà, peut-être qu'on devrait moins cloisonner les différents métiers et voir aussi ce qu'il y a en commun, notamment quand on parle de souffrance au travail. Bah, faut s'intéresser à tous les métiers. Voilà. Mais je pense que les autres intervenants sont plus qualifiés sur cette question un peu technique.
Pierre, justement, Damien parlait de souffrance au travail. Vous avez mené un travail dans un service de cancérologie, oui. Interrogé les différents travailleurs et travailleuses. Est-ce que pour ces gens-là, le travail avait le même sens que justement pour éventuellement un cadre? Quel est, vous, votre regard là-dessus?
Tout dépend de quoi on parle, en fait. Il marche le micro, là?
Oui.
D'accord. Oui, c'est ça, oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on parle de l'emploi? Est-ce qu'on parle de l'activité qui consiste à se mettre devant une tâche à accomplir et à surmonter les difficultés et à s'investir, à s'engager dans ce travail-là? Est-ce qu'on parle de l'ouvrage, enfin de la chose à réaliser avec et de l'œuvre qui en résulte? Évidemment, donc le point de vue sur le travail sera très différent suivant de quoi on parle. Et dans ce service de cancérologie, j'ai rencontré des gens qui s'engageaient, pour qui ce travail-là était plus qu'un emploi, en fait. C'était. Et donc, en fait, tout s'est déroulé sous le mode d'une rencontre. Rencontre entre moi, qui était usager, qui était accompagnant, là, en l'occurrence, et des personnes qui mettaient d'eux-mêmes beaucoup de choses dans leur travail. Voilà.
Pierre, je vous ai vu hocher la tête à plusieurs reprises.
Philippe. Philippe. Moi, le travail, c'est plutôt positif comme terme. Et le problème, c'est l'emploi. C'est comment... voilà. Mais le travail, certes, il peut être laborieux à certains moments, mais il rend fier. Enfin, ce qu'on a entendu, et je remercie encore le comédien qui a dit le texte, je crois que c'est vraiment pas facile. C'est la première fois que je l'entends avec l'accent français, et c'est de l'oralité, donc c'est vraiment dur. Moi, quand je le joue, je me sers des enregistrements du son que j'ai fait, et c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la truc. Et il raconte notamment ce rapport au travail qui est dégradé ensuite par le choix d'Unilever de passer de l'aromatisation naturelle à l'aromatisation chimique. Mais le travail, initialement, le rend fier. Enfin, il est fier de son travail, il est heureux, et voilà. Et parce que le travail, c'est aussi... Lire un livre, travailler sur soi, travailler en regardant un film. Enfin, pour moi, on travaille. Enfin, le travail, il va sur ce champ-là aussi, quoi. Voilà. Mais par contre, l'emploi, quand on fait des horaires le matin, le soir, enfin, les assistants, machin, c'est autre chose. Ouais. Oui.
Et Jenny, vous, avec Opéraé, donc il y a une dimension politique et d'éducation populaire politique. Vous, quel est votre regard sur cette question par rapport aux différents projets que vous menez ?
Bonjour, vous m'entendez ? Donc moi, sur cette question du travail, j'aurais plus une approche peut-être d'économie politique. Je pense que dans ce qu'on dit depuis ce matin, en fait, il y a peut-être deux aspects du travail. Il y a le travail concret, c'est-à-dire effectivement ce qu'on est amené à faire concrètement dans le travail. Et en général, on voit que les gens aiment ce qu'ils font et qu'ils aimeraient bien pouvoir travailler un petit peu plus comme ils l'entendent et en étant maîtres de leur travail. Donc ça, c'est une dimension en général qui est positive. Enfin, on voit que les gens ont envie de prendre du plaisir au travail, enfin, de manière générale, je pense que c'est assez évident. Et par contre, il y a la partie ce qu'on appelle le travail abstrait, c'est en gros, parce que le travail, c'est la partie de nos activités qui produit de la valeur économique. C'est quand même ça. Et donc, la question, c'est qui définit ce qui vaut, enfin, qui définit ce qui produit de la valeur économique aujourd'hui? Et en fait, c'est là où le bât blesse, quoi, puisqu'on se retrouve finalement à devoir travailler pour des personnes qui définissent, aujourd'hui dans un système qui est plutôt aliénant et destructeur à la fois pour l'homme et pour l'ensemble de son environnement. Et donc c'est ça qui génère finalement de la souffrance. Donc je trouve que c'est important de distinguer les deux dimensions pour avoir une approche un peu globale de cette question. Enfin nous, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas à Opéraé.
Oui, d'ailleurs vous disiez de parler de plaisir au travail. Il y a un adage selon lequel très capitaliste, selon lequel les gens n'ont pas envie de travailler. Ce que vous dites, c'est que c'est faux. Ils ne veulent pas travailler dans des conditions dégradantes, de souffrance, d'oppression. Mais le travail, oui.
Oui, je pense que le fait de... C'est vrai que dès l'enfance, on se construit en se disant que le travail, de toute façon, il va falloir en passer par là, en baver. Mais bon, après, il y aura la retraite, ça ira mieux, etc. Enfin, on se berce quand même de ces représentations-là collectivement, et c'est assez catastrophique parce que c'est vrai que c'est à nous aussi d'imaginer justement le travail autre et d'essayer de se donner les moyens collectivement pour changer le travail et faire en sorte qu'on puisse en maîtriser les tenants aboutissants. Donc ouais, moi je pense que ces représentations-là, elles sont liées à un rapport de force qui aujourd'hui est plutôt défavorable aux travailleurs, mais je pense que c'est une histoire de combat et de lutte collective pour changer le travail.
Alors, en matière de lutte collective, Philippe, votre texte particulièrement là, qui est mis en avant autour des Fralib, est représentatif. Comment vous est venue l'envie, l'idée de porter cette parole? En fait, là, c'est valable pour vous tous et toutes. Pourquoi recueillir la parole de salariés? Comment?
C'est venu d'une curiosité d'avoir accès à l'intérieur de l'usine, d'avoir accès à la chose qui se passait. J'ai suivi dans les années, par les journaux, l'histoire de la lutte des Fralib au jour le jour. Et quand ils ont gagné, j'ai eu l'idée de ce projet. C'était quelque part ma curiosité qui m'a amené à avoir envie d'aller à l'intérieur pour voir comment ça se passait. Pour moi, les Fralib étaient les libres d'aujourd'hui, dans un contexte un peu différent. Et j'étais très curieux de voir comment ça pouvait se passer et comment ça avait été à l'intérieur. C'est ça l'idée de départ. Ta question, c'était, pardon ?
Et c'était aussi comment ça s'est fait ? Comment on recueille une parole ?
Après, là, eux, ils étaient... j'arrivais pas à les contacter par téléphone, donc je suis allé là-bas. J'ai tapé à la porte et j'ai dit que je voulais faire ce projet. Eux, ils étaient à l'époque preneurs de toute manifestation, quelque chose qui allait pouvoir leur faire de la publicité, parce que Elephant leur a pas laissé la marque, bien sûr. Donc ils ont créé une nouvelle marque, hein, qui s'appelle 1336, comme les 1336 jours de lutte qu'il y a eu de la fermeture de l'usine jusqu'à la signature de l'accord de fin de conflit avec Unilever. Donc ils ont pris, même s'ils ne comprenaient pas trop bien ce que je voulais faire, ils me prenaient un peu pour qu'est-ce qu'il veut faire, du théâtre à partir de... Bon, ils ne comprenaient pas trop. Et puis ils me prenaient beaucoup pour un journaliste parce que j'arrivais avec un enregistreur pour enregistrer leur voix. Donc d'ailleurs certains se sont un peu méfiés parce que des journalistes avaient écrit des papiers qui n'étaient pas toujours formidables sur eux. Donc certains ont refusé, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais l'idée après, c'était j'étais libre dans l'usine d'aller voir les ouvriers, de leur expliquer mon projet, de prendre rendez-vous avec eux, d'avoir un entretien avec eux. Tout s'est passé dans l'usine et c'est comme ça que ça s'est fait.
Est-ce que ça a été la même chose pour vous, Pierre, au fur et à mesure de vos...
Oui, en gros, c'est la même chose. Donc là, ce livre-là s'est fait dans des conditions très particulières, puisque, en fait, j'étais impliqué en face des soignants. Ces soignants-là me connaissaient, j'étais accompagnant. Hein. Et avec mon épouse, on a eu, qui a été soignée, elle, on a eu envie de connaître ces gens-là. Parce qu'on voyait tout leur engagement, toute leur empathie, leur optimisme aussi. J'ai été frappé par, alors on le voit peut-être dans l'extrait qu'a été lu tout à l'heure, par une espèce de sérénité, hein, d'accueil de leur part et de vrais sourires. Dans un service de cancérologie, il y a un enjeu qui est très fort, dont sont très conscients les soignants. C'est pas la même chose peut-être dans d'autres services où les choses se font de façon un petit peu plus routinière. Là, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Donc on a eu envie de rencontrer ces gens-là pour qu'ils nous parlent de leur travail, de leur activité.
Hein. Donc c'était pas de leur... vraiment une certaine curiosité qui vous a motivé au départ,
oui, alors
ou une empathie.
Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je recueille des récits de travail. Hein. J'avais fait un autre livre sur les cheminots, par exemple. C'était en 2018, dans la dernière grève des cheminots. Et je voulais savoir qu'est-ce qui se passait du côté des cheminots. Donc j'étais allé voir les déclarations de la CGT pour comprendre un petit peu quelles étaient leurs revendications. On parle beaucoup donc des conditions de travail. On parle de tout ça. Mais on ne parle jamais du travail lui-même, ou très peu. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la confrontation entre le travailleur et la tâche qu'il a à accomplir et les gens qu'il a à côtoyer, c'est ça. Donc là, c'était normal, si vous voulez, que dans la situation que je traversais avec mon épouse dans ce service de cancérologie, je sois animé par la même curiosité. Et donc, voilà. Alors, la différence avec les cheminots, c'est que les cheminots, je ne les connaissais pas. Eux ne me connaissaient pas. Et j'ai été très bien accueilli. Ils m'ont très volontiers décrit leur travail quotidien. Alors que là, en cancérologie, on se connaissait. Donc, on est allé très vite à l'essentiel. Alors, je ne sais pas si je peux décrire dans le détail, si c'est maintenant que je peux raconter le processus. C'est-à-dire que...
Oui, bien sûr.
Oui, voilà. On est passé par une phase de préparation avec les équipes encadrantes, les cadres hospitaliers qui ont été intéressés par la démarche et qui, bon, je passe sur les détails, etc. Donc la direction de la clinique mutualiste a donné son accord et ce sont les cadres hospitaliers qui ont organisé les rendez-vous qui sont allés voir les soignants, enfin qui ont passé la consigne, si vous voulez, et qui sont allés voir les soignants qui seraient volontaires, qui ont fixé les rendez-vous, et les rendez-vous se sont déroulés sur le lieu de travail, pendant le temps de travail. Voilà. Donc il y avait un enregistrement, et alors, donc on va peut-être revenir là-dessus après, et de cet enregistrement, je tirerai un récit que je resoumette après.
Oui, il y a quelque chose de très journalistique, dans votre démarche.
On en reparlera sans doute.
Oui, on revient dessus après vous. Damien, vous étiez directement concerné par la question, donc c'est un point de vue un petit peu différent, mais néanmoins complémentaire des récits, des autres récits, pour ce texte qui est drôle, décalé. justement, comment vous avez eu envie de l'écrire?
Ouais, l'origine du texte pour moi est très différente parce que au départ, je voulais le texte s'intitulait Manuel d'autodéfense face aux banques. En fait, moi, je voulais écrire pour vous, pour les clients, les personnes autour de moi, dans ma famille, mes amis, pour un peu divulguer tous les secrets de nos métiers. Contrairement, je pense, aux cheminots, on n'a pas là vraiment de fierté de notre métier et de notre savoir-faire parce que c'est pas très noble finalement. Et je voulais en fait balancer tous les tuyaux, les astuces, les arnaques qu'utilisaient les vendeurs pour mettre en garde. Et puis chemin faisant, et puis avec l'éditeur Le Monde à l'envers, j'ai dû un peu parler de moi, de mon expérience, de la formation, de comment ça se passait, et puis rajouter un peu des anecdotes. Et puis à la fin, j'ai beaucoup plus parlé de moi. C'était pas le but au départ. Le but, c'était de vous mettre en garde face aux banques et comment faire attention à toutes ces arnaques. Et donc, c'est devenu un récit plus personnel, plus autobiographique. Ça a été mon chemin, un peu différent, donc moins documentaire, mais c'est lié, je pense, à ma position, parce que j'écris directement en tant que conseiller financier.
D'ailleurs, même si jamais ça tend à changer un petit peu dans l'imaginaire collectif, de manière très grossière, un banquier, un conseiller financier est quand même mieux loti qu'un ouvrier ou qu'un cheminot. Bon, j'imagine... tous et toutes pas trop d'accord, mais justement, quel est votre regard là-dessus par rapport au poids qui pèse sur l'emploi lui-même et les travailleurs et travailleuses?
Oui, alors symboliquement, le conseiller financier, qu'on appelle souvent banquier, a une importance dans la société. Quand on analyse ça, moi, quand je regarde ma paye, j'ai travaillé avec un transpalette à Quelberson. Finalement, j'étais mieux payé, surtout si on regarde au tarif horaire, il y a une quinzaine d'années, à faire un travail d'ouvrier, qu'en tant que conseiller financier. En fait, il y a une arnaque, je pense, de ce côté-là, et qui fait partie de l'arnaque patronale, c'est-à-dire de faire des divisions, de faire des strates différentes et de cloisonner. Mais au fond, on est juste un type d'ouvrier à part. Alors c'est vrai qu'on est mieux payé, on a quelques centaines d'euros de plus, c'est pas fou non plus la paye qu'un conseiller financier, quelques centaines d'euros de plus. Après, si on regarde la liberté économique qu'a quelqu'un, ça dépend non pas seulement de leur salaire, mais aussi de choses annexes qui vont aller avec, notamment la consommation ostentatoire. Et celle-là, elle a tendance à être assez élevée dans le milieu de la banque. Encore plus chez nos directeurs qui rêvent d'avoir une Porsche, qui rêvent d'avoir plein de choses inutiles. Et je pense que typiquement les conseillers financiers sont pris dans ce piège-là à devoir montrer qu'ils consomment, avoir un certain train de vie et qui les piègent complètement et qui font qu'ils sont pas du tout, à mon sens, pas émancipé économiquement. Et c'est doublement un piège parce que non seulement ils n'ont pas vraiment d'émancipation économique parce qu'ils ne gagnent pas 3 SMIC, mais en plus, comme ils ne se voient pas en tant qu'ouvriers, ils sont complètement. On leur enlève finalement l'arme dans leur tête qui permettrait de se battre. En fait, ils sont très individualistes, très individualisés. Et ils n'arrivent pas en fait à faire du collectif. Les collectifs de travail dans les métiers de la banque sont complètement éclatés. Hein. Tout le monde est en compétition. Donc se battre ensemble, faire grève ensemble, revendiquer ensemble, c'est assimiler un suicide. Et donc ce piège fait que, à mon sens, finalement, ils sont encore plus prolétarisés. Et je veux appeler aujourd'hui quelqu'un cadre. C'est juste, en fait, moi, j'encadre personne. Voilà, j'ai encore plus un contremaître derrière moi. Alors, on n'appelle pas contremaître, hein, c'est mon N+1, mon N+2, c'est le directeur. Mais ils sont d'autant plus odieux, ils me demandent, ils sont derrière mon dos tout le temps. Et en plus, j'ai un savoir-faire qui n'est même pas technique, qui c'est pas fou. Hein, être conseiller financier en un ou deux mois, ça s'apprend. Et donc, je suis encore plus interchangeable. Voilà. Donc, j'ai même pas, quelque part, le privilège d'un savoir technique comme ont certains cheminots. De mémoire, je crois qu'il faut après un an de formation pour être conducteur de train. Nous, c'est pas du tout le cas. Vraiment, du jour au lendemain, on nous demande Bac+2, mais ce serait même pas... Franchement, on est jetable. Au bout de quelques années, une fois qu'on est cramé, on nous jette. Voilà, on nous fait partir.
Et Jenny, vous, par rapport au travail que vous menez avec Opéra, donc il y a une mise en mots, mise en scène de textes qui concernent le travail, qu'est-ce qui vous a particulièrement parlé dans le texte de Damien?
Oui, alors juste pour, c'est vrai que nous pendant pas mal d'années, enfin on a fait pas mal de projets de théâtre documentaire aussi, donc avec un travail de collectage de paroles, notamment de travailleuses féminines. On a monté trois spectacles de théâtre documentaire, donc en composant des pièces de théâtre à partir de paroles collectées. Et depuis 2020, on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas d'ouvrages passionnants, dont celui de Damien, c'est-à-dire des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes qui s'emparent de l'outil littéraire pour parler de leurs conditions. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on pioche là-dedans. Enfin, c'est très très riche. Monsieur tout à l'heure disait « Et demain, où on en est au niveau littérature ?» Moi, j'ai l'impression que c'est foisonnant. Il y a tout un tas de petits éditeurs indépendants aujourd'hui qui font ce travail d'éditer des auteurs et des autrices qui vont pas forcément faire carrière dans la littérature, mais qui en tout cas s'emparent de la littérature pour parler de leurs conditions. Et le texte de Damien, c'est ça qui nous a vraiment intéressés, c'est que c'est le travailleur lui-même qui écrit de l'intérieur, qui décrypte du coup ce qu'il a compris de sa condition, de manière en plus, dans le cas de Damien, très, très brillante. Enfin, c'est un très beau texte qu'on a pris beaucoup de plaisir à adapter, hein, pour en faire donc une pièce de théâtre de lecture avec un musicien, puisqu'on avait, il y avait un violoncelliste aussi qui, et puis deux lecteurs. Et par rapport à ce que disait Damien, justement, je rebondis sur le... Enfin, vous demandiez, oui, est-ce que le banquier fait partie de la classe ouvrière, etc. On travaille en ce moment aussi sur... Ben là, un petit bouquin. J'ai amené quelques bouquins, du coup, parce que c'est quand même le sujet. Mais... Alors, voilà, il y a par exemple Aurélien Catin, là, qui a écrit un petit bouquin, Notre condition, et c'est sur le salaire au travail artistique, édition Riot. Donc pareil, c'est un petit éditeur indépendant, et qui justement nous invite à décloisonner les métiers ou les fonctions. Et il fait le parallèle entre la condition aujourd'hui de la plupart des artistes auteurs qui vivent dans un niveau de précarité absolue. Il y a un autre texte aussi sur lequel on travaille en ce moment, qui est écrit par une cinéaste chef opératrice qui découvre de l'intérieur ce que c'est le monde du cinéma et les niveaux d'exploitation qu'il peut y avoir aussi dans ces milieux-là. Donc je pense que c'est hyper intéressant de décloisonner et de s'apercevoir que finalement, voilà, la classe des travailleurs, elle est unique. Et même quand on est artiste, auteur, écrivain, etc., on s'en rend parfois pas compte parce qu'il y a cette espèce d'aura, de noblesse. On écrit, donc on est dans quelque chose forcément qu'on fait avec plaisir, qu'on fait par passion. Mais en réalité, les conditions sociales qui sont derrière, elles sont souvent abominables, sauf qu'elles ne sont pas pensées de manière collective. Donc, je rebondissais sur ce que vous disiez avant, sur finalement la classe, se penser comme classe unifiée. Je pense que ça peut vraiment aider à mener des luttes un peu plus collectives. Ouais.
Et vous parliez de décloisonnement, là c'est une question qui s'adresse plus à vous et Philippe. Est-ce que le fait de mettre en scène des textes permet justement, en dehors du décloisonnement entre les métiers dont vous parliez, Jenny, mais un décloisonnement, on peut dire, social, un accès plus facile à la culture pour les personnes qui auraient un petit peu plus de mal à lire, à se plonger dans un texte? En plus, ce sont souvent des essais, donc ça demande quand même, ce sont des textes assez exigeants parfois. Est-ce que ce travail de mise en scène, donc de mise en parole, s'adresse à un plus large public que uniquement l'écrit, selon vous?
J'aurais beaucoup de mal à le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que je joue, et donc je l'ai beaucoup joué puisque je suis au-delà de la 360e représentation du spectacle, souvent des petits lieux, bien sûr, parce que c'est une petite forme qui est dédiée, enfin qui est fait pour jouer devant max 150. Ça m'arrive de dépasser, mais c'est vraiment dans un rapport direct avec le public et en convivialité. Donc la salle est éclairée, je regarde les gens dans les yeux. Enfin, il y a vraiment un échange qui se fait comme ça. Souvent les gens qui me reçoivent me disent il y a des gens qu'on n'avait jamais vus avant, parce que c'est des gens qui sont concernés direct, des ouvriers qui viennent voir, ou des gens de la CGT, ou souvent on me dit ça. C'est tout ce que je peux vous dire sur le... Et sur le cloisonnement, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Oui, oui, et puis en tout cas, il y a beaucoup d'ouvriers, et ça, je le vois très vite, puisque comme je suis en relation directe avec le public et que je vois leur réaction et que petit à petit, je suis capable de dire quelle classe sociale j'ai en face de moi, même qui vote quoi. Si.
Attention.
Hein? Non, mais pas là, pendant le spectacle. Je vois qui, quand j'ai des ouvriers en face de moi, quand j'ai des bourgeois, quand j'ai des bobos, quand j'ai... Voilà. Et très vite, ce qui m'avait beaucoup marqué au début du spectacle, en tout cas, c'est le... Je ne sais pas si c'est en rapport avec la question, mais si, pour moi, ça l'est. Ils ne réagissent pas de la même façon, ils sont touchés de la même manière, ils ne rient pas au même endroit. Je vois qu'ils ont vraiment vécu ce qu'ils racontaient, ils ont vite l'œil vitreux, et puis après, à la fin de la représentation, ils viennent, et ils me disent « je suis ouvrier », et je dis « c'est bon, je sais, c'est pas là, c'est pas... je l'ai vu ». Et il y a d'abord la reconnaissance de leur travail qui voit sur le plateau, et puis il y a la reconnaissance que c'est une voix portée à d'autres, donc ils se sont reconnus à plusieurs reprises, et c'est touchant. Et puis il y a aussi les bourgeois qui viennent, qui disent moi je connais pas du tout le monde ouvrier, ça m'est arrivé deux fois, donc je transmets ça. Je connais pas du tout le monde ouvrier, on voit 5 minutes au journal des trucs sur les grèves, on comprend rien. Et là, j'ai vécu 1h30 avec eux. Merci. Enfin, voilà, on a été à la place d'ouvriers et je vous remercie pour le. Voilà. Voilà, en gros, pour répondre. Merci.
Jenny, vous, avec donc le travail que vous faites avec Operae, donc travail de mise en scène, est-ce que vous avez observé un décloisonnement, si on peut dire, de classe, même si c'est un petit peu à l'emporte-pièce?
Alors effectivement sur les, enfin quand on a monté des, bon alors moi je suis plutôt réalisatrice de films, donc en fait ça dépend des, c'est difficile de parler en général parce que c'est vrai que quand on fait des choses où on associe les publics, moi j'ai fait beaucoup de travaux par exemple avec des jeunes lycéens sur les représentations du travail. Et donc forcément, ensuite, quand on présente le travail qu'on a réalisé, il y a les lycéens, il y a les familles, il y a etc. Donc il y a tout un public qui vient parce qu'on présente un projet qu'on a mené avec les publics, etc. C'est un petit peu différent quand on adapte, voilà, par exemple, quand on a adapté le bouquin de Damien. Donc sur là-dessus, moi, je suis plutôt assistante à la mise en scène de Pascal Aumauvert, de la compagnie Soupe Tegmine Faghi, hein. À Ajaccio aussi, hein, puisque je viens d'Ajaccio. Là, sur l'adaptation de textes plus littéraires, c'est vrai qu'on anime un petit festival chaque année où on présente des pièces qu'on a adaptées. J'ai envie de dire, on est plus dans l'entre-soi, c'est-à-dire on est quand même plus sur des endroits, des espaces de réflexion où on va avoir effectivement des gens qui s'intéressent à ces questions-là, des représentants syndicaux, des chercheurs, des artistes, etc. Donc je pense que ça dépend un petit peu des projets, en fait, comment on associe justement les gens ou pas dans la construction des projets. C'était ça la question, enfin, sur le...
Oui, c'était cette idée de décloisonnement. Est-ce qu'il y a différents publics? Là, vous venez de parler d'un public plutôt de professionnels. On peut dire, quand vous disiez entre soi.
Enfin, quand voilà. Je dis entre soi, c'est pas forcément péjoratif, mais bon, faut quand même pas se mentir, quoi. Enfin,
oui,
c'est vrai.
Que...
Mais alors, juste, oui, pour. Alors, bon, moi, le théâtre, comme je vous disais, je suis plutôt assistante à la mise en scène, donc c'est pas, je peux pas en parler de manière forcément complète. Mais ce que je peux dire, c'est que sur ces textes, par exemple, il y a un autre texte, alors j'en profite comme ça, je fais un peu de pub pour les. Fin, un texte qu'on a adapté l'année dernière, Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif, de Lily Zalzette et Stella Fine aux éditions Niet Édition, qui est un petit bouquin assez technique quand même. C'est deux militantes associatives qui, de l'intérieur, donc encore une fois, hein, même démarche que Damien, hein, de l'intérieur, décryptent, racontent un peu l'histoire du milieu associatif et décryptent les évolutions et comment aujourd'hui le milieu associatif est devenu un peu le sous-traitant du service public avec toutes les dérives qui sont associées. C'est un petit bouquin, du coup, qui est assez technique, a priori, Et je pense que, enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit un peu la mission théâtrale qu'on se donne. C'est en l'adaptant, en choisissant, en faisant des coupes, des choix, en l'adaptant, en le mettant en scène. Je pense qu'on est des passeurs. On permet à ces textes-là, qui a priori peut-être seraient lus par des gens vraiment un peu pointus, qui s'intéressent au milieu associatif, on permet, j'espère, de les faire passer à un plus large public en étant des passeurs grâce au théâtre. En tout cas, c'est le rôle du théâtre, moi, que je vois aujourd'hui, qui est un rôle voilà, très important quoi, pour faire passer ces... Ces textes qui nous aident à décrypter le monde dans lequel on vit, en fait. On n'est peut-être pas dans la littérature pure, du coup. Enfin, ça, peut-être, enfin, je ne sais pas si on pourra en parler, littérature, enfin, pas littérature. Là, on est dans des actes politiques qui passent par la littérature et qui nous aident à comprendre ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et...
Moi, sur l'entre-soi, je voulais juste dire que j'ai la chance de jouer dans des petits lieux qui sont la plupart du temps tenus par des bénévoles qui font tout pour faire venir de la culture dans les petits bleds dans lesquels ils sont, et où le théâtre ou la soirée de représentation de théâtre est un événement et que quoi qu'il arrive, ils viennent. C'est-à-dire que c'est l'espace social où on va se retrouver, et il y a souvent des gens qui viennent et qui ne savent pas ce qu'ils vont voir et qui me disent après, je savais pas du tout ce que j'allais voir, je connaissais pas l'histoire d'Ifralib, qu'ils découvrent après. Donc du coup, ça m'est arrivé de me retrouver devant des publics qui n'étaient absolument pas dans l'entre-soi, enfin dans le rapport à la... enfin, des gens très à droite, quoi. Hein. La petite anecdote, c'est au fin fond des Landes, la pire que j'ai vue. Hein. Fin fond des Landes, une droite très ancienne, réactionnaire, la vieille, je croyais qu'elle n'existait plus. Je les sens, les gens qui, au fur et à mesure, sont... Enfin, ceux qui sont hostiles, il n'y en a pas toujours beaucoup, mais... Au fur et à mesure du spectacle, ça va mieux. Mais là, il y en avait 10 sur un spectacle, une assistante de 70, qui était très, très hostile jusqu'au bout. Et quand je vends les livres, à la fin, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit, qui achète le livre, qui a bien aimé, et qui dit, je ne suis pas du tout d'accord avec les autres. Hein. Je ne trouve pas du tout que votre livre est un livre bolchevique. Et le mot bolchevique, quoi, là, qui rentre pas. C'était assez... Donc je me suis dit, oui, là, ça existe encore. On a accès à un autre public aussi.
Oui, divers. Justement, pour les personnes que vous avez sollicitées, notamment vous, Pierre, est-ce qu'elles ont lu le travail que vous avez mené et quel a été un peu leur vécu, leur ressenti, leur retour ?
Oui, le travail a été lu. Le livre a été acheté par la clinique et a été distribué à tous les personnels de cette clinique-là. Voilà. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que, d'abord, les personnes que j'ai interrogées ont été étonnées que je fasse cette démarche-là. En particulier, les ASH, les agents de services hospitaliers. Vous savez, c'est les personnes qui viennent distribuer, qui viennent apporter de l'eau, qui passent à serpillière dans la chambre, qui voilà, etc. Les agents de service, quoi. Qui me disent, mais pourquoi est-ce que vous nous interrogez ? On ne semble que ASH. Je dis, mais justement, parce que c'est à vous que j'ai pensé en premier lorsque j'ai conçu ce projet-là. Parce que c'est les personnes qui sont les plus proches, en fait. Mmh. Qui sont les plus quotidiennement aux côtés des malades et qui leur apportent cette part d'humanité qui est peut-être un petit peu moins évidente quand il s'agit de manipuler des scanners ou je sais trop quoi. Voilà. Et puis, finalement, donc, ces textes-là ont été lus par les autres personnels qui ont découvert le travail de chacun de ces corps de métier qui, pour certains, sont complètement totalement inaperçus. C'est-à-dire qu'il y a le physicien dans son labo qui calcule les trajectoires des rayons, personne ne les voit. Il y a les ASH, bon, elles passent leur serpillière et le chirurgien ou le cancérologue les voient, bien entendu, mais en fait, ne se rend pas compte de l'importance qu'elles ont. Et quand j'en ai parlé à un cancérologue, il me dit ah oui, bien sûr, elles ont une très grande importance, les aides-soignantes. J'ai dit non, pas les aides-soignantes, les ASH, celles qui passent à Serpillière. A dit bon, voilà. Et de la même façon, tous les différents métiers présents dans ce service-là ont découvert le travail que les autres faisaient, quoi. Et de la même façon, l'ont reconnu, je pense. Alors, il y a eu... ce livre a été distribué et le cancérologue qui servait de relais, si vous voulez, qui chapeautait un petit peu l'opération sur la clinique, a souhaité qu'il y ait, à la suite de ce travail-là, des groupes d'analyse de pratique, qui est un moment où tous les personnels intéressés se posent la question de savoir comment chacun se débrouille dans son secteur, au-delà de la question de savoir quels sont les traitements qu'il faut leur apporter, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a eu lieu. Il y en a des questions. Voilà.
Est-ce que dans vos travaux respectifs, si on peut dire, il y a une volonté d'un petit peu de réhabilitation, de montrer un petit peu l'invisible, comme vous venez de le dire, oui. En lisant votre texte. D'ailleurs, j'ai pensé à celui plus poétique dans la forme de Fabienne Souyatli, Elles sont au service, qui parle de ces femmes, généralement, donc de ces métiers très secondaires, voire un peu en bas de l'échelle, qui sont pratiqués par des femmes, et cette volonté de mettre en lumière des métiers qu'on croise et qu'on ne considère pas. Est-ce que vous, il y avait cette volonté de réhabilitation dans votre...
Je n'ai pas entendu la question.
Est-ce qu'il y a une volonté de réhabilitation de ces métiers invisibles?
Oui, certainement. Oui, c'est une forme de réhabilitation, si on veut, oui. C'est-à-dire, il s'agit d'affirmer la dignité du travail, quel qu'il soit. C'est-à-dire que il y a... Alors, ce qui est curieux, même à chaque fois que j'abordais donc la question avec un personnel, la première chose qu'il fait, c'est qu'il me décrit son poste de travail. Et voilà, mon poste de travail, c'est un petit peu quel est le travail prescrit. Donc là, il faut laisser faire, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, quelquefois une demi-heure. Et c'est après qu'on parle du travail réel. Et le travail réel contient beaucoup de... Alors, j'ai parlé beaucoup d'engagement et d'émotion. Alors, évidemment, dans le contexte qui est celui d'un service de cancérologie, cette émotion est omniprésente. Mais enfin, quand même, il y a autre chose que de l'émotion qui vient d'une sorte d'empathie, etc. Et il y a le sentiment de faire quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire d'aller au bout d'un projet qui est de rencontrer des gens et de faire le mieux possible la tâche pour laquelle on est désigné. Voilà. Et que ça, c'est une façon de réaliser quelque chose, de se réaliser.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans les paroles de Fralib, en dehors de la lutte politique elle-même, justement, parce qu'il y a eu une volonté chez vous de réhabiliter un petit peu cette invisible, parce qu'on n'a pas forcément idée des gens qui fabriquent, entre guillemets, le thé qu'on...
Réhabilitation, je ne sais pas, mais en tout cas, en fait, le projet est parti de la lecture que m'avait... demander de lire Arnaud Meunier, donc le directeur de la Comédie Saint-Étienne à l'époque, chez qui la Comédie Saint-Étienne qui a produit le projet au départ, qui était le Parlement des Invisibles de Rosan Vallon. Donc en tout cas, c'était donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Et surtout, partager ces aventures de collectif, que ça soit sur cette histoire des Fralib, que sur l'aventure de la gestion collective des terres agricoles du Larzac que je viens de faire. Donc partager cette parole qu'on entend assez peu, puisque par exemple cet outil de gestion collective qui a bientôt 40 ans d'existence et qui est exemplaire à plus d'un titre, il ne fait pas grand bruit. Enfin, moi, je ne sais pas si vous êtes très au courant de cet outil de gestion, Voilà, c'est un outil de gestion qui permet que... C'est le seul endroit en France et même peut-être en Europe où il y a plus de paysans aujourd'hui que sur le même secteur qu'il y en avait dans les années 80. Alors que partout, la tendance est à l'agrandissement. Grâce aux outils de gestion qu'ils ont mis en place à juste après la lutte... Pardon, j'ai ma barbe qui se coince dans le... grâce à cet outil de gestion qu'ils ont mis en place, voilà, il y a plus de paysans sur le territoire.
Et là, d'un point de vue un peu plus technique, comment se passe la mise en récit sans tomber dans une manière surplombante de la part de celui ou celle qui va recueillir la parole? Comment ça se passe, ce travail-là?
Je me pose pas la question. Je crois que pour pas être sur, enfin, moi j'ai de l'amour pour ces gens, pour cette parole, pour cette langue. Moi c'est ça qui porte mon travail. Et je suis vigilant à pas donner la leçon, ça c'est sûr. Je sais pas, j'y pense pas à ça. Je saurais pas répondre plus que ça à la question. Je suis très curieux et très avec, très admiratif de ce qu'ils font. Moi, je suis pas plus que ça militant. Ça peut paraître comme ça tout ce que je fais, mais à chaque fois, des gens qui se battent pendant 4 ans. Dans une lutte où ils ne savent pas s'ils vont y arriver au bout, où les Larzaciens 10 ans hein, pour arriver à ce qu'ils ont fait. Moi, je me pose toujours la question, mais toi, au milieu, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc voilà, je suis admiratif de ces gens qui se donnent une ligne et qui ne lâchent pas et qui luttent ensemble et c'est dur et c'est formidable. Donc voilà. Juste avant, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire des Fralib, j'ai apporté des tracts si jamais vous voulez... on prendra un moment donné pour être au courant du truc. Voilà.
Et pour vous, Pierre, comment est-ce que ça s'est passé, cette mise en récit? Vous disiez que vous aviez donc recueilli au cours d'entretien la parole. Voilà. Comment vous l'avez mis en texte?
Alors, dans un premier temps, donc, il y a l'enregistrement d'une conversation. Hein. C'est pas, c'est un entretien ouvert. Hein. Il n'y a pas de grille. J'avais pas de grille de questionnement. Et donc, je laisse dire les choses, qui m'expliquent, voilà, mon poste de travail, je peux faire ci, ci et ça. Et puis, petit à petit, on arrive vers des choses beaucoup plus qui les mettent en jeu, eux. Hein. Et puis, j'essaie de trouver le moment où il y a une contradiction, il y a une difficulté, et comment on fait pour la résoudre. Et qu'est-ce que ça remue en eux, qu'est-ce qu'ils mettent d'eux-mêmes dans tout ça. Donc tout ça dure à peu près une heure, à peu près. Okay. Cet entretien est enregistré, donc retranscrit intégralement, mot à mot. Et à partir de là, j'essaye de construire un récit, de mettre en récit. Dire que ça ne va pas être le verbatim de la conversation, ça va être autre chose. Ça va être quelque chose que je vais construire avec des moyens littéraires. C'est-à-dire qu'il faut que ça raconte quelque chose, qu'il y ait une accroche, une situation au départ, que dans cette situation, on comprenne quels sont les enjeux et qu'ensuite, on déroule le récit, voilà, comme ça, avec un moment crucial où quelque chose bascule. Et puis peut-être une fin avec une ouverture, voilà, une boucle. Enfin voilà, toutes les règles du récit. Donc il y a tout un travail d'écriture par l'imparation. Mais tout ça est fait avec les mots que j'ai recueillis.
Oui.
Avec les expressions, avec les phrases. Alors c'est pas le mot à mot. Hein, ça ne suit pas forcément la chronologie de la conversation. Voilà. Et une fois qu'il y a un premier projet qui est établi, je le retransmets donc à la personne intéressée, enfin à la personne concernée, qui me fait toutes les remarques qui lui semblent utiles. Et non, ça ne faut pas le dire. Alors, quelquefois, je résiste. Je dis, mais si, au contraire, ça c'est intéressant. C'est pas... Ah ben non, alors bon, finalement, c'est cette personne-là qui a le dernier mot.
Oui, vous avez vraiment travaillé en commun.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je renvoie, donc on me fait toutes les remarques, etc. J'en tiens compte. Et à la fin, c'est la personne interrogée qui signe de son prénom.
D'accord.
Alors, on met... Alors, ça, c'est la pratique de l'association à laquelle j'appartiens, dont je n'ai pas parlé, qui est la compagnie Pourquoi se lever le matin. Hein, on recueille des récits sur ce mode-là. Voilà. Donc, on signe. Propos de parole de un tel, mis en récit par.
D'accord. Voilà. Et vous considérez chacun que votre travail serait plus littéraire, non fictionnel, documentaire, sociétal? Ben
c'est un travail qui est non identifié. Ça n'existe pas.
Qu'est-ce que vous diriez,
c'est-à-dire Damien? C'est... Alors, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans... Il faut vraiment entrer dans la logique de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et puis essayer de restituer ça dans un écrit qui soit accessible à un lecteur.
Bien sûr.
Donc, la distance de la mise en scène permet... de ne rien changer au propos de quelqu'un, parce que cette distance-là permet un montage d'une part et d'autre part de le présenter comme une sorte de fiction, puisque la personne qui interprète n'est pas celle qui a vécu la situation. Dans un écrit qu'on transmettrait intégralement sans le retoucher, un décrit de cette sorte-là est un document intéressant, mais c'est illisible. C'est un document sociologique. Donc, pour qu'il soit lisible, il faut le présenter comme voilà, un écrit, comme un objet clos qui est un récit. Donc, voilà, à ce moment-là, donc c'est moi qui fais le travail de... C'est une sorte de mise en scène aussi. Enfin, disons, de mise en récit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'écris, et c'est pourtant ce ne sont pas les mots, les mots ne m'appartiennent pas. Donc c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime à travers. Alors donc, quand je redonne le texte à la personne, elle dit oui, ben impeccable, oui, c'est exactement ça que je voulais dire, quoi. C'est la plupart, c'est extrêmement rare que quelqu'un m'ait dit non, ça va pas du tout, ça t'est arrivé une fois. Enfin, ben, quelqu'un m'a dit ben non, je vais le réécrire autrement, ben ok. Il l'a réécrit, mais ce n'est pas publiable. Alors, il n'est pas dans le bouquin. Par contre, tous les autres récits sont dans... on n'a pas... Je ne sais plus combien de récits j'ai recueilli, une 30 ou 35. Il n'y en a qu'une vingtaine de publiés. Mais tous les textes ont été mis sur Internet, sur l'intranet de la clinique. Ils sont accessibles à tous les personnels.
Donc vous partez de vous, donc du coup c'est un petit peu différent, mais comment justement est-ce que vous définiriez votre propos, volonté, style, catégorie d'écriture?
Alors je suis incapable de le définir, comme c'est un exercice qui est plutôt rare d'écrire sur le travail, même si on a vu plein d'exemples différents. En fait c'est un peu des ovnis quand même, et ce qui est génial parce que ça offre beaucoup de liberté. Il y a des anecdotes personnelles, il y a des extraits de fascicules bancaires qui vous disent comment il faut faire, j'ai cité le Figaro, il y a un peu de tout, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Par contre je sais que c'est un procédé qui est génial, enfin j'enjoins chacun qui travaille à écrire de cette façon sur le travail, parce que c'est un exercice qui permet beaucoup beaucoup de liberté et qui est assez libérateur, surtout quand on a de la colère lié au travail, enfin, c'était mon cas en tout cas, pour vider son sac c'est génial. Et sur le plan littéraire, je trouve que c'est quelque chose qui permet aussi d'explorer des nouveaux chemins, des nouveaux pays. Ou, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas on va dans des directions nouvelles qui peuvent aussi être assez innovantes. Un chapitre peut avoir plein de citations, d'autres être beaucoup plus de commentaires. À la fin, moi, j'ai fait plutôt de la prospective sur qu'est-ce que va devenir le monde du conseil financier une fois qu'on va tous être potentiellement remplacés par l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est plein de directions différentes qui peuvent être prises quand on commence à s'interroger sur son travail et le travail en général.
Avec Opérae, Jenny, donc par rapport à la mise en scène, vous diriez que c'est purement du théâtre ou qui a pareil ce mélange des genres qui est à la fois théâtral, poétique, documentaire, sociétal.
C'est un bouet, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu tout ça. Enfin, je sais pas si. Oui, c'est. Je pense que c'est un peu tout ça. Après, je pense que quand on. Restituer une parole ou un texte, forcément on y met, enfin il y a un travail d'auteur ou d'autrice dans tous les cas, enfin quand on fait de la mise en scène ou quand on choisit d'adapter un texte et que du coup on choisit, ou même quand on fait un travail de collectage de paroles et qu'ensuite on met en scène les mots pour leur donner de la force, on fait des choix qui sont des choix liés au regard qu'on a sur ce qu'on a entre les mains, puisque deux personnes à partir de la même matière, à partir du même bouquin d'ailleurs de Damien, par exemple, enfin l'extrait qui a été lu tout à l'heure, l'introduction de Damien, par exemple, nous dans le montage qu'on a fait, on l'avait pas gardé parce qu'on avait choisi de rentrer directement par le passage sur les techniques de vente. Bon, c'est des choix qui sont liés à un regard et qui orientent la manière dont le public va recevoir le texte, forcément. Donc donc le travail artistique il est de toute façon présent. Après, enfin nous, notre mission à Opérae, on est une association d'éducation populaire, donc je pense qu'on est un peu dans le même champ que travail et culture à Roubaix, même si on n'a pas la même envergure et qu'on est tout petit à Ajaccio, mais du coup on pense notre travail comme un travail social. Et puis aider à se penser aussi collectivement, c'est-à-dire, enfin, pour dire ce qu'on disait tout à l'heure sur comment reçoivent les ouvriers la parole, etc., rendre visibles les invisibles, etc. Je pense qu'il y a aussi se penser comme étant une seule et même classe de travailleurs. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et Damien en parle très bien dans son bouquin, Mathilde Ramadier sur les start-up, c'est pareil, enfin, des mondes du travail comme ça qui peuvent paraître un peu surplombants, innovants, on invente un nouveau monde, etc. Et en fait, quand on gratte, on retrouve des travailleurs en souffrance dans pas mal de milieux de travail, dans le milieu associatif aussi. Bien souvent les travailleurs sociaux qui encadrent ou qui accompagnent les bénéficiaires sont parfois dans les mêmes situations sociales catastrophiques que les bénéficiaires eux-mêmes. Enfin, donc, je pense que tout ça, l'idée de décloisonner dans le sens aussi de effectivement pas être dans un truc où nous on se pense surplombant parce qu'on a compris comment le monde du travail ça marchait, donc on va truc, mais au contraire se dire qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut créer ces espaces de rencontre, de parole pour se penser collectivement unis. Enfin, voilà. Moi, c'est un peu comme ça qu'on voit notre travail. Donc oui, c'est un peu tout, c'est documentaire, social, politique, éducatif, artistique. Enfin, voilà.
Philippe, est-ce que vous avez le même ressenti ou est-ce qu'il est totalement différent ?
Oui, oui, pour moi c'est du théâtre. Alors des fois les lieux qui m'accueillent mettent un épithète, documentaire, citoyen, militante. Bon, je travaille dessus, mais ça me froisse toujours un peu. Je préfère qu'on mette théâtre. Mon travail, il est sur l'oralité. Moi, j'enregistre le son des interviews que je conserve, que je retranscris ce qui est potentiellement intéressant, mais à l'intérieur, je conserve. Et les hésitations, les phrases qui ne sont pas terminées, les transformations de mots, enfin tout ce qui est de la parole c'est une parole très très vivante que je garde telle quelle. Et quand ensuite, donc je constitue un récit avec toutes ces paroles, mais j'ai le mouvement, puisque j'ai toujours les bandes, quand je travaille donc pour le transmettre, je travaille avec ces bandes. Donc je suis vraiment, vraiment dans l'oralité. Et après, documentaire, oui, la base est documentaire, mais comme dit un grand écrivain, le réel est une sardine, et je sais bien qu'il y a des choses qui passent à travers les filets, et c'est avant tout traversé par moi. Donc c'est le réel de ce que moi je capte qui passe par moi. Et voilà. Et,
Vous êtes un catalyseur.
Mais même dans la présentation, dans le dispositif, c'est très, très, même si c'est les bases, mais c'est du théâtre, c'est un texte, un acteur et de l'imaginaire pour le public. Et après, bien sûr, il a fallu que ça soit édité. Enfin, que ça, donc ça, après, c'est une autre aventure.
Et par rapport à ça, comment s'est opéré le choix de la forme? Alors, pareil, je vais vous la poser à chacun, mais le choix de la forme du récit, est-ce que vous le savez déjà quand vous démarrez le projet, ou est-ce que ça se fait un petit peu au fur et à mesure avec l'échange avec les personnes concernées?
Je sais plus quand. C'est parce que quand j'ai monté 1336 Paroles de Fralib, j'ai terminé le texte 2 jours avant de le présenter la première fois. Donc j'avais pas d'autre choix que de le faire en lecture. Et c'était très bien. Table, le texte et lecture. Donc au début, c'est des contraintes qui étaient données comme ça. Et par la suite, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre parce que je trouvais que c'était la meilleure forme. Parce que ce qui était mis en avant, c'était avant tout la parole. Je trouve que c'était la meilleure forme que de pas chercher à faire des mises en scène, des mises en situation, des machins. Là, j'assumais complètement le fait que j'apportais des paroles que j'avais recueillies et que je venais là pour transmettre. À aucun moment donné, je parle en mon nom dans le texte. C'est toujours les paroles des personnes que j'ai interviewées qui sont données par moi. Donc le public et moi, je suis eux que j'ai interviewés. Et pendant longtemps, j'avais tellement de respect pour ces paroles que je ne voulais pas apprendre le texte. Je voulais les lire. Donc pendant longtemps, je l'ai lu. Et ensuite, je l'ai quand même appris. Et c'est vrai que quand on a le regard avec les spectateurs, qu'on leur parle vraiment, qu'on leur adresse vraiment, c'est bien, bien, bien plus fort. Parce que je ne voulais pas apprendre ce, comme dit Pasolini. Vous méfiez toujours quand le charme de l'acteur prenne le pas sur le texte. Voilà. Et après, avec le temps.
Vous, Pierre, vous aviez dès le départ l'idée du format que vous souhaitiez donner à ces entretiens, à ces paroles.
Le format, c'est-à-dire
d'entretien et pas un roman ou une pièce de théâtre.
Le parti pris, c'est effectivement de ne pas se mettre en surplomb, effectivement, de ne pas écrire sur, mais de faire parler, d'écouter la parole des gens et de la recueillir et de la mettre en récit. C'est ça. C'est un parti pris délibéré qui est celui de l'association à laquelle j'appartiens, qui a donc produit plusieurs ouvrages comme ça, et qui est en train de travailler sur les conséquences du travail à distance, par exemple, en recueillant donc des récits de travailleurs qui ont été dans cette situation. Voilà.
Et vous, Damien, c'était justement ce format un peu hybride, s'est imposé dès le départ quand vous avez commencé à écrire, ou vous aviez une...
J'avais aucune idée d'où ça allait aller. Comme j'ai dit, au départ, je voulais faire une brochure pour avertir les clients sur ce qui se passait dans les coulisses des banques. Je suis pas écrivain, donc c'est pour moi, c'est pas une œuvre littéraire, enfin, c'est un texte d'un conseiller. En tout cas, au départ, j'étais pas parti pour ça. Donc, ça s'est fait en écrivant. Ça s'est vraiment créé, à la fois le style et le résultat s'est fait petit à petit en écrivant, en amassant des notes et puis avec des échanges avec l'éditeur. Donc, je peux pas du tout vous parler du process parce que je ne sais pas vraiment comment ça s'en est arrivé là.
Voilà. C'est peut-être un processus à part entière, en fait.
Voilà, ça m'a plu.
Alors, je vais faire un petit... voir si jamais, dans le public, que je ne vois pas bien, si jamais il y a des questions. Ah, il y a un monsieur là-bas.
Oui, bonjour. 1, 2. 1, 2.
1, 2, 1, 2. Jean-Pierre est là.
1, 2. Ah, merci. Donc Alexandre Kikos, cheminot, CGT cheminot. secrétaire de CSE au TVR Hauts-de-France et également secrétaire de CASI, donc un comité d'activité sociale inter-entreprise sur le périmètre Nord-Pas-de-Calais. Donc on est également partenaire de Travail et Culture. Quelques questions, puis amener un peu de l'eau au moulin sur la place des cheminots et des salariés plus largement face à la culture dans l'entreprise et avec un événement quand même qui s'est produit en 2017, c'est la fin des CE. On en a très peu parlé. Ça a quand même été un séisme dans nos entreprises avec les ordonnances Macron de 2017. Ces ordonnances qui ont mis un terme au CE, créé en 1946 quand même, et cet état d'esprit des CE qui ont permis l'accès à la culture, le droit aux vacances des salariés et qui ont réduit notre champ d'intervention. Et y compris ce dont pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est-à-dire continuer aux salariés de pouvoir accéder à la culture, à la lecture, etc. Donc ça, c'était un premier, peut-être une première remarque, puisque on parle beaucoup du rapport du travail ou des salariés à travers les différents échanges. Mais nous, en tant que syndicalistes et représentants du personnel, on est quand même orphelins de ces CE, puisqu'on n'a plus du tout... Le but de cette création des CSE, c'était bien évidemment de réduire nos moyens. Et nos moyens, ce n'est pas uniquement des moyens du nombre d'élus, et c'est aussi réduire nos moyens d'intervention auprès d'eux. Je tenais également aussi à travers tout ce qui a été dit, c'est le rapport entre le monde du travail et la culture, ou le rapport de la culture au travail, avec cette notion d'engagement. Ça a été fait rapidement tout à l'heure, le rappel historique. Mais pour nous, on a toujours eu des soutiens d'artistes intellectuels quand il y a eu des grands mouvements à travers les différentes grèves ou mouvements de salariés. C'est comment on arrive à remettre de la culture dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on continue, nous, c'est ce qu'on tente de faire aujourd'hui avec le peu de moyens qu'on a. On perd du terrain. Je pense que dans les entreprises, on perd du terrain. Et on s'en rend compte avec on parlait de vote tout à l'heure, mais quand on voit une extrême droite aussi haute dans le pays, et qui d'élection en élection font de plus en plus de voix, c'est quand même très inquiétant. Et nous, on considère que la culture est là pour enrichir les salariés. Et on continue, nous, à ouvrir des espaces culturels ou des bibliothèques dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas vous la faire à vous. Le principe, la notion de bibliothèque d'entreprise, Elsa Triolet, vous connaissez tout ça. Mais en tant que militants syndicaux, on en est toujours là à ouvrir des bibliothèques. Et quand on les ouvre, on rappelle que l'action ne se mène pas dans l'ignorance, d'où la nécessité de donner à chacun des outils pour sa réflexion. Et on en est là au moment où d'autres syndicats ont pris la tangente sur de la simple redistribution. Et j'entendais tout à l'heure, on est dans une société consumériste. Oui, on est dans une société consumériste. Et certains qui devraient avoir un rôle d'accès à la culture prennent la tangente pour expliquer aux cheminots que les activités sociales et culturelles, ça peut être un chèque culture, un chèque lecture. Et donc, je pense qu'on on a encore, je sais comment on arrive à retrouver du lien entre les artistes et les comités d'entreprise, puisqu'il y a encore matière pour, il y a encore de la matière, je pense, à, dans l'avenir. Et le travail, et sur la notion de genre, donc la notion de travail, quelques mots rapides. Oui, le travail peut être positif, mais comment on donne du sens au travail? Et on, voilà, hein, les quelques derniers exemples qu'on peut avoir, et je pense que ça vaut pour pas mal d'entreprises, c'est les injonctions contradictoires, par exemple, le lean management. Et c'est, voilà, c'est des pratiques qui sont aujourd'hui imposées dans beaucoup d'entreprises. Et on a beaucoup de salariés qui s'y retrouvent pas et qui ont perdu ce sens au travail. Alors, sachant qu'on est aujourd'hui dans des entreprises qui résonnent en termes de comptabilité. Quand on fait des réorganisations, des restructurations, c'est toujours sous un angle comptable. On est également dans une société comptable et juridique. Tout aujourd'hui est perçu sous cet angle-là. Et c'est comment nous, on arrive à remettre du sens, à remettre de la matière dans nos services. Voilà, donc je voulais juste dire ces quelques mots on est content d'être là. On vous remercie aussi pour tenir ce type d'initiative parce que je pense que la culture, c'est de l'engagement. Pour votre information, on a choisi comme thème 2023 au CE, enfin avec ce CE des cheminots, le thème de l'engagement, avec l'année des femmes et des hommes engagés. Parce que dans cette période assez trouble où on entend en 2022 un député qui est pris à partie d'un scandaleux retour en Afrique, on a de quoi s'indigner. Et on est là aussi pour éveiller des consciences et permettre aux salariés de s'indigner. Et donc, on va mener une année 2023 sur des thèmes, alors avec des expos, des ciné-débats. On a de la matière avec... Moi, je pense à la trilogie de Stéphane Brisé hein, sur le monde du travail, des auteurs. Donc, on en a dans la salle et je pense qu'on sera ravis de prendre contact avec certains d'entre vous sur quel type d'initiative on peut mener avec vous. Mais on sera sur une année 2023 qui aura comme thème l'engagement. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Est-ce que vous souhaitez l'un d'entre vous
Moi je joue souvent dans les CE, dans les lycées, enfin dans plein de trucs. Il y a notamment une entreprise à Pantin qui m'avait fait venir deux fois même. Elle avait fait venir pour ses salariés. Puis elle avait tellement... Enfin voilà, il y a des gens qui... c'est une entreprise qui aime travailler qui essaie de développer de la coopération, du collectif quoi, dans l'intérieur de l'entreprise. Et donc il m'avait fait venir deux fois. Et il y a aussi... donc une petite anecdote par rapport le CE du ministère de l'écologie, j'avais joué là-bas 1336 et j'ai rappelé là avec le projet Larzac en me disant voilà, c'est potentiellement je peux aller jouer chez eux aussi et elle m'a dit ah c'est super, je viendrai te voir avec plaisir, mais là depuis qu'il y a eu télétravail on travaille tous chez nous beaucoup et il y a beaucoup moins de vie syndicale et beaucoup, ça va être beaucoup plus dur de voilà, donc c'est assez, ça renseigne quoi sur ce que ça va être compliqué bientôt. Je suis en full force.
Ici, autre question.
Oui, c'est une question. Christian Berthaud, donc je suis secrétaire de Travail Culture. Ma question est éminemment naïve et volontairement naïve. Pourquoi les travailleurs n'écrivent pas eux-mêmes ce qu'ils vivent? Alors, je sais qu'elle est d'autant plus naïve qu'on a un contre-exemple ici. J'ai aussi 36 réponses dans la tête, évidemment, mais j'aurais aimé entendre vos réponses.
Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui souhaite répondre?
Moi, je veux bien. Enfin, oui, comme vous disiez, on avait pas mal de contre-exemples. Hein, j'en ai encore d'autres si ça vous intéresse. Mais je pense que, effectivement, après, il faut, comme disait Damien, il faut avoir cette démarche de prendre la plume, d'écrire, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est familier pour tout le monde. Alors, justement, ça peut être le rôle d'auteur aussi de partir de la parole des gens pour justement mettre en visibilité leur récit. Mais moi je pense que ça se démocratise. Enfin, moi je le ressens beaucoup avec on a eu aussi toutes les séries de tracts là chez Gallimard. C'est pas un éditeur indépendant là pour le coup, mais qui a donné aussi la parole à des notamment, nous on avait adapté le texte de Stéphane Velut sur l'hôpital, qui décrypte de l'intérieur les évolutions au sein de l'hôpital public. C'est paru juste avant le Covid, donc c'était vraiment pas prémonitoire, mais enfin fallait s'attendre à la manière catastrophique dont tout ça a été géré par la suite, vu l'état de l'hôpital public avant la crise. Et, enfin, en tout cas, je pense que ça se démocratise, qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui publient des choses, qui sont publiées, notamment grâce au travail de tous ces petits éditeurs indépendants aussi, comme Le Monde à l'envers, Niette Édition, il y a les éditions du Commun aussi, qui publient des textes passionnants. Mais je pense que c'est aussi un travail de décloisonnement qui est lié peut-être... Il y a peut-être un côté un peu mystifié du travail de l'auteur, de l'artiste, etc. Pour écrire, il faut tel ou tel. Enfin voilà, il faut peut-être aussi décloisonner et se dire que chacun peut. Enfin, je sais pas si je réponds vraiment à votre question. J'étais un peu longue.
Oui, moi je voudrais en rajouter que évidemment, il faudrait pas que le parti pris que j'ai décrit tout à l'heure, hein, qui est de mettre en récit une parole enregistrée, empêche les travailleurs d'écrire eux-mêmes. Voilà. Simplement, écrire, c'est difficile. Et écrire pour un public et pour être lu, c'est encore plus difficile. Voilà. Donc, on propose la compétence qu'on a. J'arrive à faire un récit. Et que ces récits soient publiables. Donc je mets cette capacité-là au service des travailleurs. Et en l'occurrence, donc, ça a été les cheminots, ça a été les soignants d'un hôpital, ça peut être... Actuellement, je travaille sur un thème qui est travail et territoire. C'est-à-dire le travail est enraciné quelque part, il est situé. Et donc je suis dans la région de Saint-Nazaire, et à Saint-Nazaire, et c'est un sens particulier. Et donc les récits que je recueille actuellement, avec l'aide des militants CGT d'ailleurs, permettent à des gens qui n'ont pas accès à l'écriture de pouvoir exprimer ce qu'ils font dans leur travail et que ce soit lu, que ce soit publié. Par exemple, j'ai interviewé le secrétaire de la section locale de la CGT. Je l'ai interviewé sur son rôle, sur son métier, enfin sur son travail, je veux dire, sur son travail de permanence syndicale. Et donc, ça a duré une heure et demie d'entretien, et j'ai transformé ça en récit. Je lui ai redonné à lire, il m'a dit, je ne change pas une virgule, je ne change rien. C'est exactement ça que je voulais dire. Et j'ai fait ça dans un récit qui fait 4-5 pages, quoi. Pour un entretien qui a duré une heure et demie. Donc voilà, en faisant ça, je permets à cette parole-là d'être exprimée, mise en forme, et il m'a demandé la permission de pouvoir l'utiliser dans son travail de permanence syndicale. C'est-à-dire que cet écrit-là lui permet d'expliquer, d'avancer dans son travail avec sa section syndicale. Donc voilà, on n'écrit pas à la place, on n'empêche pas les gens d'écrire, mais on permet de cette façon-là d'avoir un accès à une publication, au fait de pouvoir transmettre des idées sous cette forme-là.
Vous faites un travail commun, en fait. C'est à partir de leur travail que vous faites un nouveau travail.
Oui, oui.
Encore une question ?
J'ai pas vraiment une question. C'est plus, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, mais vous le verrez bien. Franck Guillaumet, donc je suis effectivement... Tu parlais du ministère quand je suis arrivé un peu en retard, Nicolas. Je suis chargé de mission vie active, culture et monde du travail et participation à la vie culturelle. Bon, ça serait déjà l'intitulé de cette mission est un peu complexe. Ça serait, il faudrait y passer un certain temps pour en expliquer. Il faudrait faire un colloque pour expliquer ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu faire. Mais enfin, pour faire simple, on a voulu dire deux choses, c'est que le culture et monde du travail, c'est-à-dire les rapports entre le travail et la culture, s'inscrivaient effectivement dans les temps de la vie et dans les mutations accélérées et profondes des temps de la vie, et puis par ailleurs dans une nouvelle logique, enfin celle qu'on essaye de défendre en tout cas, qui est celle d'une logique plus horizontale, moins verticale, moins condescendante aussi parfois, qui est une logique de participation. Enfin, c'est un peu la théorie des droits et la pratique des droits culturels qu'on essaye de faire valoir dans cet intitulé, mais c'est effectivement très très compliqué dans un ministère comme le nôtre et en dehors. Mais enfin, moi je voulais quand même remercier et féliciter Nicolas et toute l'équipe de TechCRIA pour le travail fondamental qui est le leur. Se féliciter aussi que de cet outil qui est un outil précieux, la plateforme dont on fait la quatrième rencontre nationale. C'est un outil essentiel. Enfin, on a été quelques-uns à l'imaginer au début des années 2010, et puis ça s'est réalisé, et puis elle a été portée et animée par Tech, et ça prend de l'ampleur, ça s'est développé, en tout cas ça s'est inscrit de façon très concrète dans le paysage et enfin. Je peux pas dire autrement, c'est essentiel, c'est fondamental, donc merci pour ça. Après, sur le travail, moi, par rapport à cette table ronde, bah, c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, le travail, il a toute une part, probablement, et de tout temps, une part... Il y a quelque chose qui est invisible dans le travail, quelque chose qui est sourd, qui est inexprimé, impensé. Enfin, et donc, si on ne fait pas les liens... Et si on ne fait pas ce travail permanent de rencontre et de partage avec les créateurs, la création artistique dans son ensemble et peut-être plus largement le fait culturel, eh bien c'est compliqué. Et en revanche, si on y parvient, eh bien ça permet de dénouer les fils et peut-être de faire apparaître des choses, de les mettre en relief qui sont essentielles à nos vies et qui sont positives, parce que on peut parfois aussi en avoir assez d'entendre dire que le travail, même si c'est une réalité, je suis pas hors sol, mais d'entendre dire que le travail ne serait que souffrance. Bon, je pense qu'on doit pouvoir, en faisant ce chemin-là, considérer qu'on s'inscrit aussi dans le progrès social. Par ailleurs, je termine par ça, sinon ça va être trop long, mais c'est pas pour rien quand même que le sujet du travail, la thématique du travail, est aujourd'hui très très importante, enfin revient très fort sur le devant de la scène. Je pense à la création cinématographique, je ne vais pas citer tous les exemples, mais enfin la littérature, on en a beaucoup parlé, également le théâtre, enfin bon, et encore d'autres formes, hein, même dans les formes nouvelles d'ailleurs d'esthétique. Ça prend une part très importante, et c'est pas pour rien, parce que le travail peut-être la dimension, surtout dans la dernière période, traversée par des crises multifactorielles, mais qui connaît l'une des mutations les plus profondes et probablement les plus complexes à analyser. Donc voilà, on a besoin de ces liens permanents très forts, de ces échanges itératifs et très très forts. Et merci encore pour TechCRIAC pour cette rencontre.
Alors, on va conclure la rencontre. Damien, vous souhaitiez dire quelque chose ?
Oui, un petit dernier commentaire sur le fait que les travailleurs n'écrivent pas. En fait, moi, je pense qu'il faudrait regarder ailleurs aussi. Les travailleurs écrivent beaucoup. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe dans les syndicats, il y a quand même beaucoup de travail d'écrit. Il y a les tracts, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des travaux juridiques qui sont faits. Il y a également ce qui se fait aussi grâce aux syndicats qui sont les expertises. Moi, pour mon travail, je me suis basé sur des expertises qui ont été demandées par les syndicats CGT Sud à la Banque Populaire Caisse d'Épargne et qui sont hyper riches et qui m'ont permis de comparer aussi mon expérience avec ce qui se faisait dans d'autres agences bancaires. Et je pense que si on cherche, on trouvera plein de choses. Par contre, on ne les trouvera pas forcément sur les rayons des librairies. Et peut-être qu'il y a un passage à faire à cet endroit-là. Mais en tout cas, il y a quand même ce que je pense être une production littéraire d'écrit, en tout cas par et pour les ouvriers, qui se fait et qui est d'autant plus intéressante que c'est là que se joue, je pense, une réflexion et on amène la souffrance que vivent la plupart des travailleurs aujourd'hui, malheureusement, je pense que c'est quasi universel dans le monde du travail, vers une réflexion politique, c'est-à-dire comment on peut faire pour enlever cette souffrance au travail et vers des projets souvent autogestionnaires.
Merci. Merci Damien Lelièvre, Pierre Madio, Jenny de l'École et Philippe Durand pour cet échange qui était donc dire et écrire le travail, récit de travail. Et merci à vous.